dire que le retour d'une vraie saison, d'un vrai hiver.
Ben oui, c'est un peu ça. Hein. Chaque fois que ça arrive, il se passe une chose amusante, si on peut dire. Il y a beaucoup, beaucoup d'emmerdements. Hein. Mais vous avez vu, tous les journaux télé écrits vous montrent des images. Ben, demande à leur photographe d'aller prendre des plus belles images de partout. On a du radio-village en permanence. Il y a une sorte de grand jeu collectif. Quoi. Ça y est, la neige arrive, elle est la même pour tout le monde. Les gens ont plus dormi que d'autres, mais enfin, on vit un grand moment. Et d'ailleurs, mon dessin de ce matin, dans le soir, montre des gens qui ont acheté tout, depuis le casque, les lunettes de ski et même un bobsleigh sur leur voiture pour aller profiter de la neige et qui se disent « Merde, c'est déjà terminé ». Alors on peut intellectualiser ça, je l'ai entendu sur notre antenne en parlant, en citant ce joli nouveau mot, la solistalgie, c'est cette tristesse de voir que la nature change, ne ressemble plus tellement à ce qu'on a connu enfant, bah, ça dépend de notre âge. Et que par contre, bah, quand on revient des jours de neige, bah, on se rappelle nos journées en traîneau et toutes ces choses-là. Et je crois que c'est assez vrai. On s'est dit un peu de mon dessin de la semaine dernière, dès que la neige est arrivée, c'était un monsieur dont la voiture était sur le toit et qui pourtant disait « J'adore ça, ça prouve qu'il y a encore de temps en temps des saisons ». Voilà, c'était ma petite réflexion. Cela dit, c'est peut-être aussi parce que c'est blanc. Imaginez la même chose, noir ou gris, un jour, ce sera moins drôle. Et voilà.
Cela dit, sur les routes, ça prend vite une teinte gris-noir à la neige avec les voitures qui accrochent. Vous, Nicolas Vadeux, la neige vous a fait penser à Donald Trump?
Oui, bah d'abord, c'est vrai que c'est un côté rassurant, la neige, parce que dans un monde qui devient anormal, bah, on redécouvre qu'il fait froid en hiver et qu'il fait chaud en été. Mais évidemment, j'avais pas grand-chose de plus à dire là-dessus. J'ai fait un parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis, parce que les États-Unis, il y a aussi une grande vague de froid dans le Nord, mais il y a une grande vague de froid politique avec la victoire de Donald Trump dans l'Iowa et celle qui va arriver dans le New Hampshire, avec en plus le désistement cette nuit de Ron DeSantis. Ce qui est terrible, je trouve, et j'ai fait un grand dessin dans l'écho de samedi là-dessus, avec Donald Trump en avalanche qui arrive et qui déferle, qui rase tout sur son passage. Ce qui est terrible quand on voit les États-Unis, c'est qu'on a l'impression d'être dans une dystopie qui est devenue réalité, c'est-à-dire que les États-Unis pourraient devenir une dictature, pourrait sombrer dans la guerre civile, on pourrait aboutir même à une sécession du pays. Ça a été très bien expliqué dans le roman de Douglas Kennedy, sorti cet été, qui s'appelait « C'est ainsi que nous vivrons ». Et lui situait la sécession en 2034, mais on a l'impression qu'elle arrive avec 10 ans d'avance. Et donc, le truc, c'est que j'ai montré aussi dans le dessin de l'écho qu'en Belgique, la vague de froid, elle était attendue, elle était prévenue, mais la vague de froid qui va s'abattre sur les États-Unis politiquement, c'est ça le plus inquiétant, c'est qu'elle était attendue aussi. Et donc, on n'a plus du tout le bénéfice du doute ou de la surprise comme on avait en 2016. Ce qui nous avait sauvé un peu avec la première présidence de Trump, c'est que le monde alors n'était pas soumis à une véritable crise internationale imprévue, à l'exception du Covid qui est arrivé à la fin de son mandat, qu'il a géré de manière catastrophique. Et donc avec le recul, on se dit que les années 2017-2020 étaient relativement stables géopolitiquement, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et donc quand Trump disait « Make America Great Again », il nous ressort exactement le même slogan, c'est en soi un aveu d'impuissance, puisqu'il n'a pas réussi à rendre l'Amérique plus grande à l'époque. Et je trouve que sa rhétorique est encore plus inquiétante, parce qu'elle est basée avant tout sur la vengeance. Et il a pris sa défaite de 2020 pour un affront personnel, ce qui est logique, puisqu'il part du principe, comme tout bon sociopathe, que le monde entier ne tourne autour de lui. D'où mon dessin qui est paru dans le Vif de la semaine passée, où il disait « Cette année va être extraordinaire ». Et on a des gens qui le traitent de fasciste, de mafieux, de tous les noms comme ça. Et il dit « Tout le monde ne va parler que de moi ». Parce que c'est ça qui l'intéresse. En fait, il n'y a que lui qui l'intéresse. Et les Américains, ils s'en foutent complètement. Et c'est quand même étonnant de se dire que les Américains vont revoter pour ce gars.
Alors, vous l'avez dit, Donald Trump a fait un pas supplémentaire vers l'investiture républicaine, hein, pour être le candidat à la Maison-Blanche, avec l'abandon, il y a quelques heures, de Ron DeSantis, qui était l'un de ses concurrents après son échec dans l'Iowa. Écoutez-le.
Il est clair que la plupart des électeurs républicains veulent donner une autre chance à Trump.
Ça veut dire, Nicolas Vadeau, je reste encore un tout petit peu avec vous sur Trump, qu'il n'y a plus beaucoup d'obstacles pour que Trump soit en tout cas le candidat républicain pour la Maison-Blanche.
Je pense qu'il y a beaucoup d'obstacles parce que Nikki Haley va pas tenir très longtemps, mais ça va être, imaginez, on va avoir un type qui va être peut-être condamné plusieurs fois et qui risque d'être président. Et quand on a Kamala Harris qui dit qu'elle a très peur que Donald Trump redevienne président, ouais, elle a raison, mais qu'est-ce qu'elle a fait, elle, pendant 4 ans? Parce qu'on mettait beaucoup d'espoir sur elle et on ne l'a pas vue du tout. Alors Joe Biden espère qu'il va y avoir une sorte de mur anti-Trump qui va lui permettre d'être réélu, mais c'est extrêmement inquiétant de voir que ce pays aussi fabuleux que les États-Unis ne nous propose que deux vieillards, comme je l'ai dit il y a deux semaines, l'un mafieux, l'autre complètement gâteux.
Pierre Kroll, l'arrivée de Trump dans cette course à la Maison Blanche, on voit que ce sera sans doute lui, sauf énorme surprise, candidat républicain. Vous compareriez ça aussi à une avalanche comme l'a fait Nicolas Vado?
Ouais, je suis d'accord avec Nicolas qu'on a l'impression de vivre dans Black Mirror, si vous connaissez la série, tous les jours maintenant. Parce que, écoutez, c'est extrêmement caricatural ce qui va se passer en novembre, au moment des élections. Vous avez Trump qui est un showman incroyable, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Moi, j'ai vu des extraits de ses discours où ce sont de véritables sketchs irrésistibles. Quand il raconte qu'il a téléphoné à Macron et qu'en 5 minutes, il lui a dit « Écoute, mon petit ami, je vais te taxer si tu m'embêtes », et que l'autre a dit « Ouais, ok, j'arrête ». Enfin, tout ça est à moitié inventé. Mais c'est extrêmement drôle, extrêmement... comment ça fait marrer les Américains, ils adorent ça.
C'est très efficace.
Et à côté, vous avez le vieux monsieur, ce vieux monsieur qui va dire « Écoutez, il vaut mieux moi que le fou », quoi. Bon, c'est quand même des... Ouais, c'est assez... C'est malheureusement extrêmement ridicule que la politique en soit arrivée à ce jeu de marionnettes.
Bon, élections donc aux États-Unis en novembre, et puis en Belgique aussi à l'approche des élections en juin. Les listes qui se préparent avec leur lot de vedettes, de stars. Comme Julie Taton, c'est la dernière en date, ex-Miss Belgique, aujourd'hui entrepreneuse, qui sera sur la liste du MR, la liste de Georges-Louis Boucher en Hainaut. Et avec une étude qui montre, pour la première fois ce matin, combien la politique belge est faite de dynasties politiques. Il n'y a jamais eu autant de fils et de filles d'eux dans les parlements qu'à la fin du 19e siècle, hein, en plus de 100 ans. C'est ce que nous expliquait ce matin l'un des auteurs de cette étude. Pierre Kroll, vous revenez dans votre dessin sur Julie Taton. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a Angèle aussi en arrière-plan de ce dessin. Angèle, elle est un peu les deux, elle est vedette et fille d'eux aussi, on pourrait le dire comme ça.
Ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé comme ça. C'est un dessin qu'il y a quelques jours, il est dans Ciné Télé Revue cette semaine, et là je me moque un peu de ces présidents de parti qui vont chercher, débaucher, parce que je crois que c'est un peu eux qui vont les proposer aussi, hein. Je crois pas que les gens se pressent à la porte des partis, je sais pas. Mais je voudrais pas du tout me moquer facilement de Julie Taton en l'occurrence, avec bon, ce n'est qu'une Miss Belgique, etc. Pour le dire de façon amusante, je crois qu'il y a pas mal de députés qui pourraient même pas répondre au questionnaire de Miss Belgique. Alors, je trouve qu'il ne faut pas jeter tout de suite l'anathème sur ces gens-là qui apportent quelque chose. On peut se moquer un peu des présidents de parti qui cherchent des têtes de gondole, parce que je me disais en riant que Georges-Louis Boucher au MR, avec Marc Isaïe à la batterie, avec la jolie Hadja Labib brune, avec maintenant la jolie blonde Julie Taton, il lui manque plus qu'à se mettre lui au clavier et il a reconstitué Abba. Donc c'est peut-être à ça qu'il joue. Mais qui moi, sait. Ce que je voulais faire, c'était un rapport avec justement la une de mon journal Le Soir aujourd'hui, qui lui parle du nombre de fils d'eux qui existent en politique. Alors, inutile de rappeler qui est Charles Michel et qui est Alexander De Croo, pour voir que c'est parfois au sommet, mais c'est aussi partout dans les parlements, et surtout, l'étude est très bien faite, c'est un début de thèse de doctorat, vous en avez déjà parlé tout à l'heure, mais qui montre qu'on revient à ce que ce fut avant le suffrage universel, par exemple, et qu'on recrée des dynasties politiques. Et s'il y a un rapport entre les deux, c'est que je pense à tous ces militants dans les partis qui ne sont ni fils d'eux, qui n'ont pas un nom connu et qui ne sont pas Miss Belgique ou batteur dans un groupe de musique, ou que sais-je, ou magistrat, ou quoi, et donc qui sont systématiquement dépassés sur les listes aux bonnes places par tous ces gens-là, et qui donc finalement se dégoûtent de la politique. Alors on veut qu'on apporte du nouveau, il y a finalement que les people qui vont apporter un peu de nouveau, parce qu'ils ont à la fois cette ressemblance avec les fils d'eux, qu'ils sont un peu favorisés, si l'on veut, par leur notoriété déjà, et ils sont par contre les seuls qui apportent quelque chose de nouveau, parce que je sache, on ne peut pas les soupçonner tout de suite de venir en politique pour s'enrichir, pour avoir des bonnes places, pour en faire un métier, etc. C'est pas systématiquement le cas des fils d'eux, mais en tout cas, eux sont tombés dedans quand ils étaient petits, ils savent que c'est un métier, ils savent ce qu'il faut faire, ils connaissent les codes, et ils savent pour certains comment on peut vivre de l'argent de l'État, quoi. Alors que les autres, ils viennent avec des petites naïvetés, parfois, et tant mieux. Et moi, je vais faire de la politique pour ceci ou pour cela, et je vais tout changer. Maintenant, j'ai pas l'impression que Olivier Marois a changé le paysage politique belge considérablement, mais je lui en veux pas du tout personnellement, hein. Ça, c'est pour évoquer le fait qu'en général ils sont un peu déçus de ce qu'ils apportent vraiment. Mais voilà, je voulais faire ce rapport entre les deux. C'est quand même un peu inquiétant, parce que qui apportera du nouveau en politique s'il faut être déjà connu avant ou être fils ou fille d'eux?
Étude qui montre donc un député sur 10 est fille d'eux ou fils d'eux dans les parlements régionaux, et c'est encore plus que ça au Parlement fédéral à la Chambre. Nicolas Vado, c'est un souci ça pour la politique belge, cette dynastie politique?
D'abord, ça n'est pas que spécifique à la Belgique. Mmh. Pour faire le lien avec le sujet précédent, il y a eu deux dynasties américaines récentes qui étaient les Bush et les Clinton, dont les gens ont eu marre. Ça a donné en bien Barack Obama, en mal Donald Trump. Le fait que, moi je l'ai déjà dit il y a deux semaines, je ne jette pas du tout la pierre à des gens comme Julie Tatton ou comme Marc Isaïe qui rentrent en politique parce qu'ils ont tout à y perdre et pas grand-chose à y gagner. Maintenant, moi je me pose la question, quand vous prenez Yves Kopitters qui a une vraie expertise sur la crise sanitaire, ou vous prenez Michel Claes qui a une vraie expertise en justice, ok, mais qu'est-ce que Julie Tatton et Marc Isaïe vont apporter en termes de voix au MR? On verra, parce que je pense qu'une fois que l'écume sera passée du Jean connu qui va faire de la politique, qu'est-ce qui restera après? Alors pour Julie Tatton, j'ai déjà un dessin prévu si jamais elle perd, parce que je pourrais l'appeler Julie Tatouille. Oui, je pourrais l'appeler Julie Tatouille.
Bon, j'espère que personne ne vous la volera, celle-là, déposer le modèle. On verra ça en juin, évidemment. Et pour terminer, direction Davos, à 1500 mètres d'altitude en Suisse. Là, il y a encore beaucoup de neige. Davos, où le Forum économique mondial s'est terminé ce week-end. Grands patrons et dirigeants du monde entier s'y sont croisés. Et certains de ces dirigeants ultra-riches en ont profité pour publier un appel à être plus taxés. 250 millionnaires qui réclament un impôt sur les grosses fortunes parce que, disent-ils, les inégalités dans le monde ont atteint un point de bascule. Réaction dans Matin Première vendredi du patron des patrons belges, l'administrateur délégué de la FEB, Peter Timmermans.
Il y a un débat sur la taxation en général, oui, il y aura toujours un débat là-dessus. En Belgique, on est taxé le plus au monde, et donc qu'il faut une réforme fiscale, ben, tout le monde est d'accord, et donc débattons de cela, mais alors dans un cadre beaucoup plus large que simplement par des slogans. Ou par des mesures qui ne sont pas cadrées dans une réforme globale.
Voilà, pas tout à fait convaincu le patron de la FEB. Qu'est-ce qu'on attend? C'est votre question à travers votre dessin, Pierre Kroll.
Oui, mais je voudrais rappeler que ce n'est pas la première fois. En 2010, il y a déjà eu une pétition avec le fameux Warren Buffett qui rassemblait 45 milliardaires. 2010, c'était il y a 14 ans, hein, qui demandait déjà la même chose. Nous devrions être plus taxés. Il parlait pour les États-Unis, hein, surtout. Et puis en Belgique, je rappelle que Laurent Minguet, si ça vous dit quelque chose, lorsqu'il a revendu toutes les parts de VS, il a trouvé tout à fait normal qu'on le taxe un peu plus sur ses richesses et aurait trouvé normal qu'on le taxe sur les plus-values de ses actions. Il l'a dit publiquement. Donc c'est quand même assez étonnant, même si, bon, il ne faut pas rêver, vous avez peut-être vu la série Netflix sur Liliane Bettencourt, le principal adversaire de tous ceux qui entourent Liliane Bettencourt dans cette histoire, c'est le fisc. Hein, voilà, c'est même pas la concurrence, elle n'en a plus trop, c'est le fisc. Donc je
rêve pas. Héritière de L'Oréal.
Oui, c'est ça. Et puis alors on est aussi au sein, surtout d'un système anglo-saxon où le principe est un peu taxé peu, et puis quand on est très riche, de donner beaucoup à des œuvres. Donc il y a quelque chose qu'il faut mettre dans son contexte. Mais je trouve quand même ça extrêmement intéressant. Et oui, la question, qu'est-ce qu'on attend, puisque je vous dis, c'est pas nouveau. Et je comprends pas très bien, même M. Timmermans, et souvent l'argument prêté à tort ou à raison, à des partis de droite libérale, hein, je veux dire, en disant on perdrait des électeurs, quoi, si tout d'un coup il faut taxer plus fort les riches. Ici, on parle des ultra-riches, vraiment, des gens, ils sont pas très nombreux, c'est pas très important de perdre ces gens-là, et l'évasion fiscale, on le sait, n'est pas liée uniquement, elle a déjà lieu avant par le montage de la société, c'est pas ça qui est tellement en jeu. Moi, je crois, tout simplement, je terminerai là-dessus, que les ultra-riches se rendent compte que ce monde devient dangereux pour eux, soit pour eux personnellement, parce que moi je dis souvent que si on va un jour revivre une révolution, elle ne sera pas la victoire du PTB, ce sera 1789, hein, on ira leur couper la tête à ces Elon Musk, à ces Bezos, etc., parce que c'est devenu Louis XVI, quoi, tous ces gens-là, même plus que ça. Ouais. Donc il y a un vrai danger. Alors pour eux, bon, ils ont les moyens de se protéger très fort, mais ils savent que tout s'achète et que tout se vend, et acheter une certaine, comment dire, sérénité, une certaine cohésion sociale, un certain équilibre dans la société, il faut passer pour ça par l'État. Donc il faut peut-être financer l'État. Quelle réflexion intellectuelle, n'est-ce pas, pour un lundi matin. Oui. Non, je me demande si c'est pas de ça dont ils se rendent compte.
Et c'était pas un appel à la violence, on le précise, évidemment, Pierre Kroll, dans vos propos. Qu'est-ce qu'on attend, Nicolas Vado? Il y avait eu le même, hein, d'ailleurs, Pierre Kroll le dit, c'est pas la première fois, il y avait eu le même appel à Davos l'an passé, exactement le même. Qu'est-ce qu'on attend?
Oui. Et on peut même aller plus loin. Je me souviens, je crois que c'était en 2015-2017, il y avait une tribune qui avait fait du bruit de Stephen King qui était dans le New York Times et qui était intitulée En anglais, tax us for fuck's sake. Je n'ai pas besoin de traduire, je pense. Et j'ai eu dans le soir aujourd'hui l'analyse de deux économistes qui étaient très justes. Et il y en a un qui disait qu'en fait, ils ont peur d'une révolution. Je pense que c'est vrai. C'est la dialectique du maître et de l'esclave. Le plus libre n'est pas forcément celui qu'on croit. Et les révolutions ne se font jamais à la marge. Or, là, on voit que les super riches deviennent encore plus riches et que la classe moyenne a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Et en effet, je pense qu'ils ont peur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils donnent ça à Davos. Alors moi, chaque année, je fais un dessin un petit peu manichéen sur le forum de Davos, parce que je ne peux pas m'empêcher de voir une caricature en soi dans ce forum. C'est-à-dire qu'on a toujours du mal à faire la balance entre, d'une part, l'utilité bien réelle pour les décideurs de se rencontrer et de se parler, et de l'autre, le symbole des happy few qui sont perchés dans une station de ski ultra-chic, bien à l'abri des aléas du monde. Donc ça reste une caricature en soi, et le fait que ce soit dit à Davos, et à chaque fois on dit oui, il faut nous taxer, et en effet, je suis d'accord avec ce que disait Pierre Kroll, si on surtaxe les super riches, ça va pas changer grand chose, mais c'est vrai que je pense qu'ils ont peur pour leurs fesses, ils ont peur d'une révolution tout simplement.
Voilà, ils ont peur pour leurs fesses. Réflexion donc sur les inégalités croissantes dans ce monde en 2024 et la fin de ce forum économique à Davos en Suisse. C'était le Parti pris en dessin avec Nicolas Vado. Merci à vous et Pierre Kroll.